Tiens, belle maman, puisque c'est l'heure et qu'on est chez toi, ça t'ennuierait qu'on écoute l'agité du local? C'est sur l'autre radio.
Ah ben non, au contraire, j'écoute tous les jours.
J'aime être entourée de personnes qui ne soient pas le miroir de moi-même. J'aime ce sentiment de pouvoir être qui je suis, d'être acceptée ainsi, aimée ainsi et d'avoir ma place là où je souhaite être. J'aime être entourée de personnes qui ne soient pas le miroir de moi-même parce que toutes les différences nous rendent chaque fois plus riches de quelque chose, plus humain, plus sensible, plus empathique. Et cette place dont je vous parle, tout le monde ne l'a pas. Le chemin pour la trouver est plus compliqué pour certains et c'est notamment le cas pour les personnes autistes. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 2 avril et c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Justement, pour en parler aujourd'hui, j'ai à mes côtés Virginie Lafourcade de l'association Coxy Bleu et Alain Nico, conseiller délégué de la ville de Mayenne en charge de l'accessibilité et du handicap. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour.
Bonjour.
Dans quelques instants, on parlera ensemble du salon de l'autisme qui aura lieu demain à la salle polyvalente de Mayenne de 13h à 21h et de ce qu'est le quotidien des familles confrontées à l'autisme. Dans la suite de l'émission, on vous parle collection de jouets anciens avec l'association Les Petits Mondes qui réunit plusieurs collectionneurs au palindrome de Laval le 6 avril pour vous proposer un salon du jouet. On a rencontré leur présidente Marie-Annick Payard qui, elle, est plus spécifiquement passionnée de poupées. Pardon, j'ai du mal ce matin. L'émission se termine avec la chronique de Donatien. Chaque mardi, il clôture le bal et c'est encore le cas aujourd'hui. Et bien sûr, en milieu d'émission, c'est l'actu en bref et la météo avec Lucie. Lucie, bonjour, comment vas-tu ?
Bonjour, très bien après ce long week-end.
Bienvenue à vous, amis auditeurs dans l'agité du local. Je suis Margot, on commence cette émission ensemble et on la commence avec nos invités du jour. Je vous le disais, Virginie Lafourcade de l'association Coxy Bleu et Alain Nicou, conseiller délégué de la ville de Mayenne et Mayenne Communauté, en charge de l'accessibilité et du handicap, hein, qui sont donc avec nous aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme et du salon de l'autisme que vous organisez et qui aura lieu donc demain à Mayenne. Alors Virginie, je le disais, vous êtes en contact direct avec le quotidien de personnes autistes et de leurs familles. Vous êtes vous-même maman d'un adolescent autiste. Vous êtes donc en première ligne pour savoir ce que c'est le quotidien, que d'être confrontée à l'autiste, des joies, des bonheurs, mais aussi des difficultés. On en parlera. Mais déjà Virginie, on parle de troubles du spectre autistique parce que l'autisme peut prendre en fait différentes formes.
Oui, tout à fait. Alors ça fait longtemps qu'on le sait. L'autisme, c'est pluriel, hein. Ça se différencie de bien d'autres handicaps de ce fait qu'on peut être tout à fait autiste sans déficience intellectuelle associée, sans comorbidité et pouvoir vaquer à n'importe quelle occupation, prétendre à n'importe quel mode de vie à partir du moment où c'est adapté. Par contre, à contrario, on peut retrouver des profils de personnes autistes très déficitaires, avec de grosses difficultés de communication, d'interaction sociale et des déficiences intellectuelles associées et d'autres pathologies associées, pour qui il y aura besoin d'énormément d'accompagnement soutenu, intensif et voilà, des prises en charge beaucoup plus importantes.
Quand on est parent d'un enfant autiste, le parcours est malheureusement souvent lourd à cause de structures en manque de moyens, d'un système qui n'est pas forcément adapté à tous et donc un sentiment de solitude pour les familles. C'est aussi pour ça que l'association Coxy Bleu a été créée en 2012. Virginie, c'est pour proposer un accompagnement justement dans toutes ces difficultés et ces situations.
Oui. En fait, en 2012, on a créé l'association Coxy Bleu à la suite des recommandations de la Haute Autorité de Santé pour l'autisme, qui a indiqué des méthodes comportementales et éducatives et plus du tout ce qui était proposé dans les structures d'obédience psychanalytique où on laissait végéter des enfants sans leur proposer aucun accompagnement et on ne leur permettait pas de développer une autonomie suffisante pour pouvoir avoir accès à l'école, à des loisirs et plus tard potentiellement à un métier. Les choses ont changé grâce aux recommandations, mais il a fallu se battre pour qu'elles soient appliquées sur le terrain, et ce n'est pas encore le cas partout aujourd'hui. Et l'idée derrière la création de l'association, c'était quelque part de brandir ces recommandations de la Haute Autorité de Santé un peu partout en disant ben « voilà, aujourd'hui c'est acté, maintenant vous êtes obligés, il va falloir le faire ». Et d'un autre côté, les institutions qui ne faisaient pas encore ce chemin-là, eh bien, il fallait qu'on puisse proposer aux familles d'avoir des accompagnements en corrélation avec les recommandations, mais ça se trouvait que dans le libéral, donc à la charge des familles. Et l'idée, c'était qu'on puisse récupérer des fonds en tant qu'association pour pouvoir aider les familles financièrement à avoir accès à ces méthodes recommandées par la Haute Autorité de Santé.
Et donc, concrètement, aujourd'hui, l'association, comment vous accompagnez les familles? Donc, vous les accompagnez notamment sur des démarches, vous pouvez les orienter également?
Alors aujourd'hui, ça a un peu changé par rapport justement à la création en 2012 où on était vraiment axé sur ces histoires de recommandations. Aujourd'hui, c'est même un petit peu plus difficile pour les familles, je pense, la pilule à avaler quand on reçoit un diagnostic d'autisme, pour la simple et bonne raison que moi, quand j'ai démarré en 2012 avec mon fils, les structures qui existent aujourd'hui n'existaient pas. Des unités d'enseignement maternel, des services formés justement en corrélation avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Tout ça, je n'y avais simplement pas accès. Aujourd'hui, ces services ont le mérite d'exister, mais ils sont saturés. Donc ça crée un sentiment de frustration auprès des familles parce qu'elles se voient octroyer certains droits par la maison départementale du handicap avec des orientations, mais qui ne sont jamais effectives parce qu'il n'y a pas de place.
Et je le disais tout à l'heure, vous êtes maman vous-même donc d'un adolescent autiste. Ce parcours, vous le connaissez bien. Quelles sont les difficultés peut-être que vous avez pu rencontrer?
Alors les difficultés, elles ont commencé dès la petite section de maternelle. Donc moi, je suis arrivée pleine d'honnêteté vis-à-vis de l'école en disant voilà, mon fils est autiste, il a 3 ans, il faut l'inscrire à l'école. Je sais qu'il y aura besoin d'accompagnement. Mais la réponse a été claire de la part de la directrice, elle ne le voyait absolument pas à l'école. Il était non-verbal, il n'était pas propre. Pour elle, sa place était en institution. Donc déjà, première discrimination à l'âge de 3 ans. Il a fallu surmonter ça. Et on s'est accroché, on a continué à se battre pour pouvoir avoir accès à ce milieu ordinaire. Et aujourd'hui, il est en seconde au lycée. Voilà.
Et donc, vous le disiez, il existe des structures d'accueil et d'accompagnement. On en parlait ensemble tout à l'heure. Elles sont principalement, en fait, sur Laval, par exemple, si on parle de notre département. Mais surtout, on le disait aussi tout à l'heure, avec une liste d'attente énorme. C'est-à-dire que non seulement il existe des structures, certes, mais en fait, l'accès à ces structures n'est absolument pas garanti.
Oui, c'est ce que je vous disais justement face à la frustration des familles, parce que aujourd'hui il y a vraiment de très bons services. L'État a fait des progrès parce que les associations de familles ont essayé de monter des choses, des projets, des structures spécialisées qui ont très bien fonctionné. L'État s'en est saisi parce que c'était ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, ils ne mettent plus les moyens suffisants pour ouvrir des places et pour permettre un taux d'encadrement satisfaisant au sein de ces structures, qui fait que les familles se retrouvent soit avec des briefs d'accompagnement, soit pas d'accompagnement du tout et à être sans solution à la maison.
Et alors justement, c'est intéressant de le souligner quand cet accompagnement est inexistant ou déficient, les familles se retrouvent souvent un des parents à devoir ne plus travailler pour rester auprès de son enfant. C'est quand même un impact important aussi pour le parcours de vie des familles.
C'est aussi ce qui a motivé la création de l'association en 2012, puisque j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mon gamin. Et effectivement, je me suis formée moi-même aux méthodes recommandées par la Haute Autorité de Santé. J'ai dépensé beaucoup d'argent dans des formations et je suis devenue l'éducatrice spécialisée à domicile 24/24 de mon fils parce que je n'avais pas de place en CESAD, parce que je n'avais pas d'accompagnement satisfaisant pour lui. Et force est de constater que 12 ans plus tard, il y a encore beaucoup de mamans qui sont obligées de faire ce choix-là, d'arrêter de travailler pour accompagner leur enfant. Parce que quand on a un enfant qui est scolarisé 2 heures par semaine en milieu ordinaire, et qu'on vous dit qu'il est scolarisé en milieu ordinaire, parce que ça rentre dans les chiffres de l'État, on considère à partir du moment où l'enfant est inscrit à l'école qu'il est scolarisé. Or, ça représente 2 heures par semaine, le reste du temps, il est à la maison avec sa mère.
Oui, effectivement, ça c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. On remarque justement qu'il y a de plus en plus une volonté gouvernementale d'inclure les enfants autistes en milieu ordinaire, mais on avait aussi pu entendre justement une crainte d'un accueil qui pourrait pas forcément être adapté à l'école classique, ce qui engendre peut-être justement un accueil de seulement 2 heures par semaine. Les classes sont souvent surchargées, les enseignants ne sont pas formés à ces situations. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Alors là aussi, il y a eu du progrès. Pas que les enseignants soient mieux formés, mais on a quand même permis aux enseignants d'avoir des outils. Notamment aujourd'hui, il y a des enseignants en ressources autisme par académie qui peuvent venir en soutien des enseignants pour leur expliquer comment adapter les supports, comment organiser une classe en fonction des besoins d'une personne autiste. Mais malheureusement, ça reste insuffisant parce que le boulot principal d'accompagner une personne autiste à l'école, c'est le boulot d'une AESH, d'une accompagnante de scolarité. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en a pas assez, il n'y a pas de budget pour en employer plus, et on ne les forme pas mieux. Donc concrètement, elles ne sont pas non plus forcément adaptées aux besoins des enfants autistes qui vont développer des troubles du comportement à l'école et pour qui ça ne se passera pas bien, alors que sur le papier, ça devait fonctionner.
Quand on devient parent, on a tous un désir profond, j'imagine, que son enfant puisse trouver sa place dans ce monde, qu'il puisse se construire un avenir, de le voir heureux et épanoui. Dans ce que vous connaissez au quotidien, Virginie, avec Coxie Bleu ou avec votre expérience personnelle, on parlait de la famille tout à l'heure qui accompagne et des difficultés parfois qu'elle rencontre dans l'accompagnement de son enfant. Mais il y a aussi l'enfant, l'adolescent ou même l'adulte autiste qui aujourd'hui rencontre lui-même des difficultés. Est-ce que vous avez des témoignages justement de ces personnes qui racontent leur ressenti dans cette société et dans ce à quoi ils sont confrontés aujourd'hui?
Oui, c'est compliqué d'être autiste dans une société sociale, puisque un des plus gros handicaps des personnes autistes, c'est bien la difficulté à comprendre les mécanismes sociaux, les interactions sociales, les codes sociaux. Sauf que pour pouvoir travailler en entreprise, il faut savoir communiquer avec ses collègues, il faut savoir respecter la vie privée des autres. Et ça peut être compliqué parfois pour des personnes autistes de respecter ces cadres-là. Et elles se retrouvent parfois isolées ou elles s'isolent elles-mêmes de peur de faire une bêtise. Et effectivement, c'est très compliqué parce qu'on manque quand même de connaissances sur l'autisme. Et il suffirait parfois de quelques petits ajustements pour que les personnes autistes puissent se sentir en sécurité dans un contexte social qui peut leur être défavorable. Et là aussi, il y a eu un petit peu de progrès par rapport à ce qu'on peut proposer aux adultes autistes, notamment avec la création des groupes d'entraide mutuelle, qui permet aux personnes autistes de se retrouver sous forme d'association encadrée par un animateur formé, qui peuvent faire des activités ensemble, échanger sur leur quotidien, trouver aussi des solutions par rapport à leur orientation. Mais aujourd'hui, dans le monde du travail, ça reste extrêmement compliqué pour des personnes autistes, et notamment même pour des personnes autistes de haut niveau, avec des capacités extraordinaires, des compétences pouvant vraiment servir la société et des entreprises, mais pour lesquelles on n'exploite pas correctement leurs talents parce qu'on ne leur permet pas de pouvoir s'épanouir au travail. Et c'est aussi l'objet des tables rondes du Salon de l'autisme de demain, qu'on a axé sur le passage à l'âge adulte, sur les études chez les personnes autistes neuroatypiques et sur l'âge adulte.
Justement, je vous propose qu'on parle justement de ce salon qui aura lieu demain, donc le 3 avril, à la salle polyvalente de Mayenne, de 13h à 21h. Il y aura différents stands, différents rendez-vous, des tables rondes, notamment, vous venez de le dire. Et donc, c'est soutenu, cet événement est soutenu par la communauté de Mayenne. Alain, quand vous entendez tous ces témoignages, comment vous pensez qu'une collectivité puisse justement soutenir, intervenir dans ce type de situation, type de témoignage?
Notre rôle, c'est d'être des facilitateurs, d'aider toutes ces associations, tous ces professionnels, toutes ces familles à ne pas rester isolées, à partager leurs compétences, leurs connaissances. Donc, d'organiser un salon, pour nous, c'est important. Virginie l'a dit tout à l'heure, il se passe beaucoup de choses sur Laval, mais dans le Nord-Mayenne, il y a des gens qui ont des problèmes de mobilité, de transport. Donc, en ramenant l'événement sur Mayenne et Mayenne Communauté, ça va permettre de raccourcir ces distances et puis que tout le monde puisse construire et partager des choses ensemble, quoi.
Et puisque c'est un rendez-vous, finalement, c'est important de le préciser. On est tous concernés par cette sensibilisation, qu'on soit confronté de près ou de loin à l'autisme. Il est important de comprendre pour qu'on soit une structure accueillante, par exemple, de public, en fait, finalement, avoir conscience de ce qu'est l'autisme et ses particularités. Ça permet aussi, des fois, d'ajuster. Vous le disiez tout à l'heure, Virginie, des fois, peu de choses font la différence.
Complètement. Et c'est ça aussi qui est intéressant au travers de l'organisation du salon, c'est qu'on ne va pas réunir que des publics concernés et des structures concernées, mais également tout ce qui fait la vie locale d'une commune, avec les lieux de droit commun, comme une bibliothèque, un conservatoire, un centre social. L'idée, c'est vraiment de permettre à tout le monde de se rencontrer, d'échanger. Lors des tables rondes, il y aura des personnes concernées, il y aura des personnes autistes qui témoigneront de leurs difficultés et de leurs besoins. Et finalement, quoi de mieux que les personnes concernées pour exprimer leurs besoins. Je pense que ça permet davantage aux structures et aux personnes de mieux comprendre comment ils doivent s'organiser pour mieux accueillir ce public-là.
Sans doute aussi que c'est l'occasion de pouvoir poser des questions, parce que des fois, on n'ose pas forcément même passer le pas de la porte d'une association. Peut-être quand on vient d'apprendre un diagnostic tout récent, j'imagine qu'il y a toujours ce premier pas qui n'est pas évident à faire. Ça peut être l'occasion de venir, de poser des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, je pense, en fin de compte, quand on s'interroge et qu'on est curieux et bienveillant, c'est toujours intéressant.
Alors, moi-même la première, quand j'ai commencé, quand j'ai eu le diagnostic pour mon fils, je ne voulais pas aller vers une association, ça me faisait peur parce que ça m'obligeait à me projeter quelque part, ça m'engageait aussi, et puis ça me faisait peur, je pense. Et le fait de créer ce salon, c'est aussi l'idée que les personnes puissent juste passer, juste regarder les stands, peut-être ne pas échanger avec les gens, mais au moins prendre des informations. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que l'autisme a des origines génétiques et qu'on le sait, il y a beaucoup de parents qui sont directement concernés, non diagnostiqués, et pour qui c'est encore plus compliqué d'aller chercher des solutions parce qu'ils sont eux-mêmes dans des situations d'isolement et ne savent pas comment faire pour aider leur enfant parce que ils n'ont pas les clés.
Donc, je le rappelle, ce salon donc, aura lieu à la salle polyvalente de Mayenne de 13h à 21h demain. Si on veut contacter, par exemple, l'association Coxie Bleu pour des informations, pour vous retrouver, voir vos actualités, où est-ce que ça se passe,
Virginie ? On a un site internet, coxiebleu.fr, une page Facebook.
En tout cas, merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. On va continuer cette émission dans quelques instants. On retrouve l'actu en bref avec Lucie, mais je vous propose avant ça une petite pause musicale avec le groupe Astéréotypie que vous avez peut-être pu découvrir sur la scène du 6x4 le 21 mars. On écoute « Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt » dans la Drôme.
Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Mais Kevin, crétin de Secret Story 3, oui. Il paraît qu'il a coupé ses cheveux, c'est imbécile. Mon cousin par alliance, par moment, ressemble à Brad Pitt. Mais il n'a pas les mêmes muscles. Michael Vendetta ne ressemble pas à Brad Pitt, même s'il est blond. Il est nunuche, c'est un connard, il ne mérite pas de gagner la fame de célébrité. Son métier, c'est de faire le buzz. Il a la même voix que Sting dans le dessin animé Fairy Tail. J'ai partagé ma chambre avec ma copine Léa, qui ressemble à Scarlett Johansson en rousse. Nicolas, mon mono de ski à la plage, ressemble à Hayden Christensen. Je crois qu'il est célibataire, mais je n'avais pas le niveau de ski pour me marier avec lui. Je ne l'oublierai jamais. Aucun mec ne ressemble à moi, Sting dans la drogue.
Yeah! Allez, c'est parti pour l'actu en bref et on commence par parler rapidement de la grève des enseignants qui a lieu aujourd'hui mardi 2 avril. L'intersyndicale de l'éducation a lancé un appel à la grève pour protester contre, entre autres, la mesure choc des savoirs. Les arrêtés et décrets publiés pendant le mois de mars à ce propos déplaisent aux syndicats qui estiment, je cite, que la mise en place du choc des savoirs consiste principalement à mettre en place des groupes de niveau et selon eux, il s'agit désormais de trier des élèves ce qui va immanquablement creuser les inégalités. Au-delà de ce qu'ils dénoncent, ils appellent également à la mobilisation pour continuer à réclamer de meilleurs salaires, l'annulation de suppression de postes, une meilleure reconnaissance du statut AESH, pour ne citer que ça. Bon, autrement, il n'y a pas que des choses qui fâchent, heureusement. Et ce week-end, c'était l'occasion parfaite pour aller à la chasse aux œufs de Pâques. Pas mal d'enfants ont pu en profiter sur le territoire, comme vers Sainte-Suzanne, ou à la Bazouge des Alleux, qui a réuni 35 enfants dans la salle des fêtes avec des chocolats collectés et offerts par le restaurant L'Atelier du Vieux Moulin. Avant de terminer, un peu de sport et hier, à Château-Gontier, il y a eu la 3e édition du Trail Urbain Solidaire organisé par l'association 7 Donneurs. Et la participation a fait un record avec 600 coureurs sur les 5 km et 11 km. Et ouais, c'est pas des blagues. Et cette année, les bénéfices du trail seront reversés à l'association Petit Lys Blanc qui vient en aide à Lilouen, âgée de 8 ans et polyhandicapée. Un peu de podium, Corentin Morel a remporté le 11 km en 37 minutes et 8 secondes, suivi de près par Ewen Dutertre. Et chez les femmes, c'est Madame Béas qui a terminé le 11 km en 44 minutes et 5 secondes. Allez, pour terminer, on va au carré de Château-Gontier justement pour son temps fort autant pour nous, qui commence aujourd'hui avec une conférence que l'on vous a déjà présentée avec Christine Houdard qui nous parle d'un ciné-débat qui aura lieu au Palace à Château-Gontier. Écoutez.
Dans le cadre du temps fort, on aura un partenariat avec Atmosphère 53, qui présentera un documentaire de Gilles Vernet au cinéma Le Palace. Le documentaire s'appelle « Tout s'accélère » et donc c'est Gilles Vernet lui-même en fait, qui est un ancien trader qui est devenu instituteur. Donc gros changement de rythme de vie, qui a questionné en fait ses élèves de CM2 sur le rythme de nos sociétés et comment ils percevaient un peu la société actuelle. Et donc, c'est vraiment vu à hauteur d'enfant et on s'aperçoit vite qu'ils ont bien capté ce qui n'allait pas et ce qui posait problème dans la société. Au travers du documentaire, en fait, il fait intervenir aussi différentes personnalités, sociologues, philosophes, d'horizons très des scientifiques, d'horizons différents qui vont parler aussi de ces problématiques de temps et de rythme. Mais vraiment, du coup, concrètement, des interventions des enfants dans l'espace public où ils vont interpeller les adultes sur leur comportement aberrant. Donc ça va être les gendarmes de la vitesse sur les trottoirs de la ville. Donc il y a des petits moments assez savoureux et qui nous mettent bien face à nos contradictions. Voilà. Et ça, ce sera le 4 avril au cinéma Le Palace.
Allez, on termine rapidement avec un coup d'œil sur la météo. Cet après-midi, toujours des pluies éparses et des nuages, avec 11-12 degrés et quelques rafales. D'ailleurs, concernant le vent, je vais aller très vite. Ça va souffler avec des rafales à 50-55 km/h qui seront présentes toute la journée d'aujourd'hui, cette nuit et demain également. Et voilà, en fait, je pourrais presque faire pareil sur l'état du ciel d'ailleurs, puis vous dire que ce soir et cette nuit, c'est pluie éparse et demain, très nuageux partout sur le territoire. Et puis pour les températures, ça bouge assez peu puisqu'on va rester sur 11-12 degrés cette nuit et demain matin aussi. Et puis demain après-midi, même s'il n'y aura pas de soleil, ça va quand même remonter à 15-16 degrés avant de redescendre à nouveau à 12-13 degrés dans la soirée et la nuit. Allez, courage Steven, il faut tenir bon, on a pu avoir quelques rayons ce week-end, je suis sûre qu'ils vont finir par revenir.
Des collectionneurs exposent le 6 avril à Laval. Je ne vous parle pas de n'importe quelle collection. Aujourd'hui, on vous parle de collections de jouets vintage et ça peut être toutes sortes de jouets finalement qui seront d'ailleurs exposés par leurs propriétaires passionnés au Salon du Jouet le 6 avril à Laval. Ces collectionneurs se retrouvent et vous proposent ce rendez-vous avec l'association Les Petits Mondes. Écoutez leur présidente, Marie-Yannick Paillard.
Alors, cette association, elle existe depuis 2013. Alors, j'en suis la présidente. On est toutes sortes de collectionneurs. Nous organisons un salon du jouet, justement, qui aura lieu le 6 avril. Ce sera du vintage toy qu'on a appelé cette année.
Qu'est-ce qu'on pourra y voir, du coup? Donc, vous disiez des vintage toys, c'est peut-être la thématique de ce salon?
Alors, toutes sortes de jouets anciens, beaucoup d'anciens, d'ailleurs. Et puis, par exemple, les bonus, les poupées, les vieilles poupées, les Kinder, qu'on gardait souvent quand il y avait les enfants, qu'on gardait les petits sujets, quoi. Et aussi les Lego, les fameux Lego, et les Playmobil.
Et vous, Marie-Annick, vous êtes plutôt sur l'univers de la poupée, c'est bien ça?
Moi, j'en possède 3000. Alors, donc, j'ai fait le thème sur la chorale, sur les militaires, sur les sœurs de la coudre, toutes sortes de corps de métier. Sur le Covid, je fais aussi le monde agricole. Alors, toutes les fermes, les petits animaux, la basse-cour, tout ça.
Donc, vous avez choisi de représenter un peu le monde dans toute sa globalité à travers vos poupées, qui sont des poupées de bébés.
Et surtout des poupées anciennes. Oui, c'est vraiment les poupées anciennes que je recherche. Je dis aussi à tous, si vous avez des poupées à mettre à la poubelle, pensez à moi. J'ai commencé à exposer, c'est quand mon fils il avait 17 ans, quand il est parti pour aller aux grandes écoles. Alors j'ai commencé par un baigneur, deux baigneurs, trois baigneurs, et puis après j'ai eu c'était pour remplir la chambre.
Comment est-ce que c'est né votre passion à vous? Est-ce que c'est une histoire similaire pour tous les collectionneurs ou est-ce que chaque histoire est unique? Quelle est votre histoire à vous par rapport à votre passion?
Disons que moi, je n'ai pas eu du tout de fille. J'ai trois garçons. Et donc, et puis moi, je n'ai pas eu de jouets étant jeune. Alors, je crois que j'ai plongé dedans, quoi. Et puis moi, la poupée, on habille, on fait plein de choses avec. Et c'est énorme pour moi, quoi. Chacun gardait pour soi, quoi. Chacun gardait pour sa collection pour soi. Disons, ça n'a pas de charme, parce que, en fin de compte, il faut la montrer. Hein. Et puis là, c'est là qu'on voit que les uns ou les autres font quelque chose de beau, quoi. C'est super, quoi. Ouais.
Est-ce qu'il y a des bonnes surprises aussi sur l'intérêt des spectateurs, enfin du public qui vient vous voir?
Ah oui. Il dit, dans le temps, on avait ça, on a mis ça à la poubelle et tout. Ah, je dis, non, il ne faut rien mettre à la poubelle. Tout ramasser. Hein. Et puis, avis aux amateurs, hein. Nous, on prend tout. Hein, toutes sortes de jouets. Et comme ça, chacun a son petit jouet qui...
Son jouet un peu fétiche et qui est représentatif peut-être de quelque chose pour lui qui raconte une histoire. Ouais. Justement, en parlant d'histoire, vous racontez des histoires, en fait, avec vos poupées, avec tous les costumes que vous leur faites. Et vous me disiez que vous êtes aidée par une amie pour les costumes.
Oui, je suis très aidée, beaucoup même, plus qu'aidée. Disons, elle a fait 44 ans de couture et alors elle est super douée. Hein. Et heureusement, je l'ai parce que je crois que je ne ferais pas tout ça.
Et là, par exemple, pendant ce salon du 6 avril, vous allez montrer un petit peu vos poupées et vous avez choisi une thématique particulière. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots?
J'ai choisi sur les Jeux olympiques. Alors, il y a le judo, il y a le skateboard, il y a l'escalade, les nageuses, la course à pied, le golfeur.
Alors, dites-nous un petit peu toutes les informations qu'on a besoin de savoir sur ce salon du jouet le 6 avril.
L'entrée est à 2 euros seulement. Deux adultes et deux enfants, c'est 5 euros. C'est le passe-famille qu'on appelle. Et puis, moins de 6 ans, c'est gratuit. Et alors, donc, le samedi 6 avril, vous pouvez venir nous voir de 10h30 à 18h30 au palindrome de Laval, 25 rue Estin à Laval.
Les nouvelles le matin n'égayent pas tellement nos journées en ce moment, et oui. Donatien a un remède, ou alors Donatien est le remède. Bon, vous me le direz après avoir écouté sa chronique.
Écoutez, bonnes gens, la cruelle et douloureuse histoire des frères Dalton qui furent l'incarnation du mal, et que ceci serve d'exemple à tous ceux que le diable écarte du droit chemin.
Ce matin, les nouvelles du journal n'ont rien d'enthousiasmant. Alors, pour se distraire, Donatien se plonge dans la lecture d'une bande dessinée, un album de Lucky Luke, dans lequel, une fois de plus, les quatre frères Dalton s'échappent du pénitencier et finissent par se faire cravater par notre héroïque cow-boy solitaire juché sur son cheval Jolly Jumper et avec l'assistance ou malgré l'assistance souvent maladroite et involontaire de ce brave et stupide Rentemplant. Cravater, étymologiquement, signifie attraper quelqu'un par le cou. Le mot convient donc bien à notre cow-boy, expert au lasso et habitué au grand désespoir de Ma Dalton, leur mère, à renvoyer au pénitencier nos quatre compères qui, à la place de crayons, si l'on en croit la chanson, utilisaient des limes et qui, en guise de cravate, portaient des cordes de lin. Ne vous étonnez pas si leur tout premier crime fut d'avoir fait mourir leur maman de chagrin. Il est rare que Donatien porte une cravate. Et pourtant, c'est un accessoire qui donne au shérif, qu'il soit incarné à l'écran par Kirk Douglas, John Wayne, Burt Lancaster ou Clint Eastwood, une certaine élégance qui fait loi. Tandis qu'au bar, les hommes du Far West se jettent un verre de whisky derrière la cravate, la bolotaille au saloon prend l'ascendant sur le foulard poussiéreux du cow-boy indiscipliné. Aujourd'hui encore, tout est dans la cravate. Mais quelle que soit l'expertise avec laquelle vous nouez ce bout de ruban, le nœud papillon, savamment attaché sur un col droit, sera toujours plus festif ou plus aristocratique. Le col officier et le col Mao, eux, se portent évidemment sans accessoires. Quant au col de deuxième et première catégorie, on les réservera aux amateurs de la petite reine. Comme autrefois pour le shérif, la cravate aujourd'hui portée par nos députés est l'accessoire qui s'accorde à leur légitimité. Soit. Sur les plateaux télévisés, les élus se présentent de plus en plus souvent avec un col ouvert ou un col roulé. Pas de quoi se faire pendre. Donatien militerait volontiers pour le retour de la Lavalière. Non pas parce qu'il s'exprime sur les ondes d'une radio lavalloise, mais parce que la cravate dite Lavalière lui apparaît comme une marque de raffinement. Historiquement, la Lavalière n'a rien à voir avec la Mayenne. Elle doit son nom à la duchesse de Lavalière qui la portait à la cour du roi. Louis XIV tomba sous son charme, mais l'histoire ne dit pas le rôle joué dans cette attache sentimentale par l'élégance de ce nœud de cravate.
Tout petit à l'école,
à la place de crayon, ils avaient des lits. En guise de cravate, des cordes de lin. Ne vous étonnez pas si leur tout premier crime puis d'avoir fait mourir leur maman de chagrin. Tagada, tagada, c'était les Dalton. Tagada, tagada, c'était les Dalton. C'était les Dalton. Tagada, tagada, il n'y a plus personne.
Les années passèrent.
Ils s'étaient débrouillés pour attraper la rage et ficeler le docteur qui faisait les vaccins. Et puis contaminèrent les gens du voisinage, s'amusant à les mordre, y accuser les chiens. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Tagada, tagada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tagada, tagada, il n'y a plus personne.
Ils devinrent des hommes.
Un conseil, mon ami, avant de les croiser. Embrasse ta femme, serre-moi la main. Vite sur la vie, va te faire assurer. Tranche-toi la gorge et jette-toi sous le frein. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Tagada, tagada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tagada, tagada, y a plus personne.
Et la justice payée.
Comme tous les jours, l'on t'a ont augmenté de 20 centimes.
Des centimes américains.
Ils étaient vaniteux et avides d'argent. Ils se livrèrent eux-mêmes pour toucher la prime. Car ils étaient encore plus bêtes que méchants.
Tagadan, tagadan, c'était les Dalton. Tagadan, c'était les Dalton. C'était les Dalton. Tagada, tagada, il n'y a plus personne.
C'était les Dalton de Joe Dassin. Merci à Donatien pour cette très belle chronique. L'AJT s'arrête ici. Merci à Virginie et à Alain d'avoir été avec nous aujourd'hui pour la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et merci à toi, Lucie, de m'avoir accompagnée tout au long de cette émission. Bien sûr, les émissions normales continuent sur l'autre radio aujourd'hui.
D'ailleurs, Margot, je me demandais, on pourrait pas faire un horoscope comme Mimi et son gars hier ?
Ah oui, bah, amis auditeurs, vous avez sans doute pas manqué effectivement cette émission spéciale hier, mais malheureusement, on n'aura pas forcément le talent de Mimi et son gars pour faire un horoscope quotidien. Donc place à l'info. Et à 19h, on commence avec les rendez-vous de la paix, Lucie.
Et oui, ce mois-ci, l'émission parle de l'entrepreneuriat au féminin avec Marie Tessier, qui travaille pour l'Observatoire de la Cresse, Pays de la Loire, et Ylvie Decam, qui mène de nombreux projets en Mayenne, fournit le bio, école à la ferme et art-thérapie, et j'en passe.
Et ensuite, c'est Frères de chaussures à 21h.
Oui, l'émission sur le rap français animée par Fatshu, bien sûr.
Et je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'AJT du local. Je serai en compagnie de Lucie Rimbaud de l'Anima Compagnie et de son projet en début de création qui aborde la thématique des troubles des conduites alimentaires. D'ici là, prenez soin de vous. La semaine commence. Soyons ensemble pour faire le bien.
Mimi, tu crois que c'est fini ?
Quand elle dit au revoir, bah, c'est que c'est terminé.